à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, la journée internationale de la paix, nous entendrons le message de Ban Ki-moon. Sergio Pinheiro plaide pour une solution pacifique au conflit syrien. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique visite un site nucléaire en Iran. Dans le dossier Tour d'horizon des défis humanitaires en Syrie, enfin ce sera l'heure de retrouver votre rendez-vous de Fréquence Santé. En ce 21 septembre, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la paix, journée consacrée au renforcement des idéaux de paix entre les nations et les peuples sous le signe de la non-violence et du cessez-le-feu. Cette année, la journée est placée sous le thème « Partenariat pour la paix, la dignité pour tous ». Elle vise à souligner l'importance de voir tous les segments de la société travailler ensemble pour lutter pour la paix. Une collaboration que le secrétaire général Ban Ki-moon a tenu à souligner avant de sonner la cloche de la paix.
Nous marquons cette journée internationale de la paix dans un monde déchiré par la guerre. Même dans les démocraties stables, les gens souffrent de crimes motivés par la haine et la violence. Les femmes sont attaquées en raison de leur sexe. La pauvreté est une autre terrible injustice. Les enfants meurent de malnutrition, même dans ce monde avec tant de nourriture. Ici, nous sommes un petit groupe recueilli, mais nous sommes rejoints par des milliers de personnes aux Nations Unies, fonctionnaires et étudiants, militants et artistes, chefs d'entreprise et leaders communautaires. Chacun d'entre nous est déterminé à œuvrer pour la paix. Je demande à toutes les parties au conflit à observer un cessez-le-feu global. Cela ne se produira peut-être pas aujourd'hui. Mais comme nous faisons du bruit en faisant tinter cette cloche, nous allons continuer à marteler ce message et à demander la paix.
Le président de la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie a une nouvelle fois plaidé ce lundi pour une solution pacifique au conflit. Devant le Conseil des droits de l'homme, Paolo Sergio Pinheiro a averti qu'il est impossible de résoudre la crise migratoire européenne sans trouver une solution au conflit. Et ce alors que sur le terrain, la violence et les exactions ne faiblissent pas. On retrouve notre correspondant à Genève, Alpha Diallo.
Devant le Conseil des droits de l'homme, le président de la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie a dénoncé les crimes de Damas, mais aussi les abus des groupes rebelles et surtout les atrocités des islamistes de Jabhat al-Nusra et de Daesh. Une violence et des violations qui ont provoqué l'exode massif de Syriens. Face à la gravité de la situation sur le terrain, Paolo Sergio Pinheiro a plaidé pour une solution pacifique. Une façon de rappeler que le moment est venu de surmonter l'échec diplomatique et de soutenir l'envoyé spécial de l'ONU, Stéphane de Mistura. C'est le moment d'agir pour le Conseil de sécurité, a souligné Paolo Pinheiro, non sans rappeler les signaux envoyés par la Russie et les États-Unis qui se sont mis d'accord pour discuter de mécanismes pour la désescalade du conflit.
States cannot continue affirming.
Selon le président de la commission d'enquête, les États ne peuvent pas continuer à exprimer le soutien en règlement politique et en même temps armer les belligérants. De son côté, la Syrie a une nouvelle fois rejeté le rapport de la commission d'enquête jugé partial. Alpha Diallo, Genève pour la Radio des Nations Unies.
Yukiya Amano, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a achevé dimanche une mission en Iran. À Téhéran, il a pu rencontrer le président Hassan Rouhani, le président de l'Organisation pour l'énergie atomique de l'Iran, Ali Akbar Salehi, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et des parlementaires. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre de la feuille de route qui vise à trouver une issue à toutes les questions restées en suspens. Le point avec Isabelle Dupuis.
Yukiya Amano a souligné dimanche que sa visite du complexe de Parchin était très importante pour clarifier certaines questions concernant la possible dimension militaire du programme nucléaire iranien. C'est la première fois que l'AIEA a pu visiter ce site et Yukiya Amano, qui était accompagné du directeur général adjoint de l'agence Terovar Joranta, a d'ailleurs pu se rendre dans un bâtiment que l'AIEA avait au préalable uniquement pu observer par images satellitaires. Sur place, l'équipe de l'AIEA a pu constater que des travaux de rénovation avaient récemment été effectués et qu'aucun équipement n'était entreposé dans le bâtiment. Yukiya Amano a aussi indiqué que l'étendue des travaux effectués sur ce site depuis 2012 met à mal la capacité de l'agence à y effectuer des vérifications effectives. Il est prévu que l'AIEA et l'Iran tiennent une discussion dans les prochaines semaines suite à l'analyse des informations collectées pendant ce déplacement. Pour le directeur général de l'AIEA, la mise en œuvre de la feuille de route a à présent atteint une étape importante et beaucoup de travail devra être achevé dans les semaines à venir.
Et puis, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, ce 21 septembre, de grandes marques internationales ont uni leurs efforts pour démontrer le rôle crucial de l'aide alimentaire. En soutien au PAM, le Programme alimentaire mondial, de nombreuses entreprises accorderont gratuitement un temps d'antenne à une nouvelle publicité de 30 secondes qui sensibilise les téléspectateurs ainsi que les internautes aux différentes crises humanitaires dans le monde. Tsige Chiferao.
Montrer le lien entre la guerre et la faim, tel est le but d'un nouveau spot publicitaire du PAM. Cette vidéo de 30 secondes, visible sur Internet et à la télévision, est intitulée « Symbole ». Plusieurs grandes sociétés, notamment de restauration rapide ou de réseaux sociaux, soutiennent le projet qui cherche à amplifier des appels aux dons en utilisant une animation vidéo. Tous les fonds recueillis durant cette initiative financeront le fonds d'intervention d'urgence du PAM, a indiqué l'agence. Ce fonds est notamment utilisé pour soutenir les opérations majeures comme en Syrie, les pays voisins, l'Irak, le Soudan du Sud et le Yémen. Selon le Programme alimentaire mondial, le nombre de personnes déplacées a atteint des chiffres records jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Toujours à ce propos, le PAM a fait savoir que les besoins actuels dépassent largement les ressources de l'agence.
Enfin, en Côte d'Ivoire, l'Union africaine appelle à des élections pacifiques. À Abidjan, à l'occasion de la clôture de la caravane de la paix, Marie Bounzi, intervenant au nom de la représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, a demandé aux Ivoiriens d'avoir un comportement pacifique tel que celui prôné par Félix Houphouët-Boigny.
Dans moins de 40 jours, la Côte d'Ivoire va élire son président. Nous enregistrons déjà quelques violences et des destructions de biens dans certaines localités. Que les uns et les autres fassent preuve de retenue. Rien, absolument rien, ne peut se résoudre dans la violence. Car la violence appelle la violence. La paix, ce mot est utilisé à longueur de journée. Dans les médias, au marché, dans nos maisons, à l'école, dans nos lieux de travail, partout. Est-ce que nous donnons vraiment à ce mot son véritable contenu?
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Avec l'afflux massif des réfugiés en Europe, la tragédie syrienne a maintenant atteint les rives européennes. Lors de l'examen de son rapport devant le Conseil des droits de l'homme, la Commission d'enquête internationale sur la Syrie rappelle que ce problème touche depuis plusieurs années les pays voisins de la Syrie. Et lors des débats, plusieurs États ont insisté sur la tragédie des réfugiés, estimant que ce conflit avait donné naissance à une des plus graves crises humanitaires de l'histoire récente. Un dossier préparé par Alpha Diallo.
La commission d'enquête de l'ONU s'est rendue récemment dans les pays voisins de la Syrie, occasion pour Paulo Sergio Pinheiro et son équipe de rencontrer de nombreux Syriens. De ces témoignages poignants, une seule constance, la quête d'exil. Ces civils syriens disent avoir fui un pays qui leur est devenu méconnaissable. La vie telle qu'ils l'ont bâtie et telle qu'ils l'ont connue s'est écroulée autour d'eux, ne leur laissant qu'un seul choix, la fuite. Alors qu'on se dirige vers une cinquième année de guerre avec un grand nombre de réfugiés et de déplacés internes qui vivent dans des conditions intolérables, la tragédie syrienne atteint maintenant les frontières européennes. Paulo Sergio Pinheiro, président de la commission d'enquête de l'ONU.
La tragédie syrienne a maintenant atteint les rives européennes. Pendant plus de 4 ans et demi, les décès d'enfants et les souffrances quotidiennes des familles continuent à être déplorés. La terrible souffrance humaine vécue dans les hôpitaux et les camps de réfugiés des pays voisins de la Syrie se lit désormais sur les visages hagards de réfugiés entassés dans les gares européennes et derrière les fils barbelés des camps aux frontières de l'espace Schengen. C'est la lourde facture à payer pour l'échec à trouver une solution pacifique au conflit en Syrie.
To bring Syria back to peace.
En attendant, des pays comme la Grèce ont exprimé leur inquiétude devant le Conseil des droits de l'homme. Athènes s'est ainsi préoccupée par le nombre croissant de réfugiés en provenance de Syrie qui transitent par son propre pays. Malgré cet afflux de réfugiés en Europe, le Maroc insiste d'abord sur les souffrances infligées à la population syrienne dont la moitié est devenue réfugiée. Saïd Aouga, ministre conseiller de la mission permanente du Maroc à Genève.
Les enfants dont les vies sont brisées par les affres et les souffrances de ce conflit continuent d'être recrutés par les parties au conflit et se retrouvent victimes de violences au même titre que les adultes. Le coût humanitaire induit par le conflit ne cesse de s'alourdir, sachant qu'environ la moitié de la population syrienne, soit une dizaine de millions de réfugiés et de personnes déplacées, dont le drame et les souffrances continuent même après qu'ils aient réussi à quitter les zones de combat. Et la récente crise migratoire en Europe est là pour nous rappeler l'ampleur de la tragédie syrienne.
Et dans cette tragédie syrienne, les civils sont les premières victimes des attaques des belligérants. C'est pourquoi l'Égypte a invité l'Union européenne à respecter la Convention de Genève de 1951 sur les droits des réfugiés à l'image de ce que font les pays voisins de la Syrie. Même son de cloche du côté de l'Allemagne, qui a demandé au pays de respecter absolument le principe du non-refoulement. Dans ces conditions, plusieurs délégations ont mis l'accent sur l'aide humanitaire. Jean-Marc Ocheit, représentant permanent de Luxembourg à Genève.
Compte tenu de la dégradation de la situation humanitaire et en attendant une solution politique, la communauté internationale doit s'abstenir de tout signe de lassitude. Il ne saurait y avoir de fatigue en la matière. La prolongation du conflit a poussé un nombre croissant de Syriens à fuir la région en direction de l'Europe et nous rend donc plus conscients encore des effets globaux de la crise, tout comme des défis qui se posent pour apporter une protection effective à ceux qui sont dans le besoin.
Les délégations ont lié la crise migratoire à l'intensité du conflit syrien et selon la commission d'enquête, il est donc impossible de résoudre la crise des réfugiés en Europe sans trouver une solution à la guerre. Paulo Sergio Pinheiro, président de la commission d'enquête de l'ONU.
Cette crise des réfugiés, déjà présente en Turquie, au Liban, en Jordanie et en Irak depuis des années, est largement causée par le conflit syrien. Les deux sont inextricablement liés. C'est impossible de résoudre l'un sans l'autre.
Si 442 000 réfugiés et migrants ont traversé cette année la Méditerranée, dont de nombreux Syriens, 4 millions de Syriens sont plutôt réfugiés vers les pays voisins comme la Jordanie, le Liban ou la Turquie. Et selon l'ONU, la Syrie compte au moins 7,6 millions de déplacés sur son territoire et 422 000 civils sont assiégés par les belligérants.
Fréquence santé. Santé.
Alors que depuis le début de l'année, 350 000 réfugiés et migrants sont arrivés en Europe, l'Organisation mondiale de la santé aide les pays à répondre aux défis sanitaires sans précédent. Outre la livraison de fournitures médicales ou encore la formation du personnel au point d'entrée, l'OMS fait un travail de sensibilisation contre les idées reçues sur les réfugiés. Christina Silvero a joint le directeur du bureau régional de l'OMS pour l'Europe, le docteur Guénaël Rodier.
L'OMS est impliquée déjà dans cette problématique réfugiés, migrants et santé depuis 2011, déjà avec des vagues de migrants de l'époque, je pense à la Grèce, à Malte, à l'Italie, à Chypre, et a mis sur pied déjà en 2012 un programme qui s'appelle Public Health Aspect of Migration in Europe, ou FAM. De notre côté, avec la situation en Syrie, on a également créé un bureau sur le terrain dans le sud-est de la Turquie, à Gaziantep. Donc là, il y a un bureau de l'OMS qui s'occupe spécifiquement des réfugiés, notamment syriens, en Turquie. Et puis en 2015, cette année, on fait évidemment encore plus, avec notamment à la demande des pays des évaluations sur le terrain de leurs besoins. Je pense à la Bulgarie, à Chypre, à la Grèce, à l'Italie, à Malte, au Portugal, à la Serbie, donc beaucoup dans le sud et dans les Balkans, bien sûr. Et on fournit également des fournitures médicales en général pour faire face aux besoins de ces populations de réfugiés ou migrants. Et c'est tout le kit, comme on les appelle, permettre de tenir pour 3 mois pour 10 000 personnes. Par exemple, on en a fourni à la Grèce et on en fournit d'autres dans d'autres pays où on les aide à se procurer sur place ce genre de fourniture.
Alors justement, quels sont les besoins qui ont été exprimés par les pays européens?
Alors les besoins d'abord sont exprimés surtout par le biais de nos bureaux pays. L'OMS a la chance d'avoir des bureaux sur le terrain dans chacun de ces pays. Et donc, à travers nos bureaux pays, on est en contact directement avec les ministères de la Santé, qui nous permet d'avancer. De plus, l'OMS, à ce moment-là, est complètement intégrée avec les UN Country Team des Nations Unies. Je pense à notamment au UNHCR, à l'UNICEF et d'autres acteurs importants, comme le PAM, par exemple. Donc, à travers tout ça, on a une évaluation des besoins, une information sur les besoins. En pratique, on a affaire à des populations donc, de réfugiés ou de migrants qui ont des problèmes de santé très similaires aux populations des pays d'accueil. Simplement, elles sont bien sûr plus fragiles et on va trouver plus fréquemment des problèmes non seulement de fatigue, mais aussi de blessures pendant ces longs voyages, de maladies chroniques qui se sont décompensées, comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires ou l'hypertension, des problèmes chez les femmes enceintes, par exemple, des problèmes de traumatisme psychologique. Et sur le plan maladies infectieuses, on va surtout trouver des petites flambées éventuellement de diarrhée ou d'infections respiratoires aiguës, principalement liées à des conditions d'hygiène insuffisantes. Les grandes maladies infectieuses qui semblent inquiéter beaucoup de monde, je pense à la tuberculose, au VIH-Sida, aux hépatites virales, à la rougeole, à la rubéole, ce sont des maladies qui sont déjà depuis très longtemps en Europe, qui ne sont pas de toute façon éradiquées loin de là. Je dois même dire qu'en matière, par exemple, de tuberculose, l'Europe a une prévalence bien plus importante, notamment de maladies tuberculeuses résistantes aux antibiotiques, qu'en matière de sida, notamment la partie est de la région européenne de l'OMS est le seul endroit au monde où l'épidémie continue de galoper. En matière de rougeole, on a des épidémies malheureusement toujours, y compris en Europe de l'Ouest. Et donc ces populations ne sont pas forcément plus touchées que les populations du pays d'accueil en matière de ces grandes maladies.
Alors justement, pour avoir un bon programme d'accueil, est-ce que l'OMS propose un appui ou une aide, des formations pour les pays d'accueil?
Alors tout à fait, à travers ce programme FAM que je mentionnais tout à l'heure, qui existe donc depuis 2012, on a déjà fait des formations, notamment dans les Balkans. Et en ce moment, donc, on a fait, je crois, 6, 7 ou 8 déjà évaluations sur le terrain avec les États membres, avec les UN Country Teams, pour évaluer les besoins et former au mieux les pays à recevoir ces populations de réfugiés et migrants.
Voilà, et c'est avec le docteur Guénel Rodier de l'OMS que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.